Le goût d'entreprendre. Le goût d'entreprendre. Une émission proposée par Doris Pradal en partenariat avec la Caisse d'Épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées.
Bonjour à tous et bienvenue dans Le Goût d'entreprendre. Le monde agricole est en plein chamboulement et cherche à se réinventer. Nous recevons Pierre Goulard, en charge de l'agronomie et de l'environnement au sein de la Chambre régionale d'agriculture en Occitanie. Il nous expliquera pourquoi l'innovation est indispensable dans le monde agricole. Il faut ajouter que l'agriculture et l'agroalimentaire constituent le premier secteur économique de la région Occitanie avec plus de 160 000 emplois. Pesticides, environnement, revenus, emploi, le monde agricole cherche l'équilibre. Bonjour Pierre Goulard.
Bonjour.
Rappelons-le, vous êtes en charge de l'agronomie et de l'environnement au sein de la Chambre régionale d'agriculture. Merci d'être avec nous sur Radio Présence. Alors, pourrions-nous préciser les missions d'une Chambre régionale d'agriculture en ce qui nous concerne pour l'Occitanie ?
D'accord. Donc les chambres d'agriculture, vous le savez, sont instaurées par le code rural, ont des missions donc issues de ce texte. Et la particularité des chambres d'agriculture par rapport aux autres organismes consulaires, c'est d'avoir une double mission. Bien sûr, celle de représenter les intérêts d'une corporation, donc en l'occurrence les agriculteurs et la profession agricole, mais aussi celle d'accompagner le développement agricole. Voilà, ce qui nous différencie des autres chambres consulaires. Voilà.
Vous avez des directives, vous écoutez qui ? Vous obéissez entre guillemets à qui ? Les directives du ministère, bien sûr.
Oui, puisqu'effectivement, dans le cadre du programme de développement agricole, nous recevons donc des financements provenant du ministère de l'Agriculture. Mais après, nous sommes les interlocuteurs privilégiés des pouvoirs publics lorsque une réglementation doit se mettre en place à l'échelle de notre territoire d'influence, donc en l'occurrence pour l'Occitanie, pour la Chambre régionale. Voilà, et puis après, nos actions de conseil, même si après, c'est plutôt le réseau des chambres départementales d'agriculture qui sont plus en interface directe avec les agriculteurs.
Voilà, qui est davantage sur le terrain, qui effectue un travail de proximité. On va en parler justement avec tout ce côté innovation et développement de l'innovation chez les agriculteurs. Alors, il faut ajouter aussi que la région Occitanie présente une grande diversité de production agricole. C'est la deuxième région agricole de France ?
C'est la deuxième région agricole de France, tant en termes de surface agricole utile qu'en termes de nombre d'agriculteurs, effectivement.
Donc c'est important, qu'est-ce qu'on cultive le plus aujourd'hui, rappelons-le, sur la région est grande aussi, hein, Occitanie, on parle de Pyrénées, on parle du pourtour de la Méditerranée.
Voilà, donc je crois qu'on a tout l'éventail hein, des productions agricoles se trouve en Occitanie, effectivement. On a un peu trois tiers, un tiers autour des productions animales, de l'élevage, que ce soit donc plutôt dans les Piémonts, on va dire, ou le nord de la région. Après, une zone centrale avec une dominante de grandes cultures, production céréalière et d'oléagineux.
On est loin de la Beauce, hein, tout de même.
Oui, en termes de potentialité de rendement, bien sûr que nous sommes loin de la Beauce, effectivement. Ce qui n'est donc pas sans poser quelques questions et quelques problématiques de rentabilité pour nos exploitations spécialisées. Et puis, bien sûr, le troisième tiers autour des plantes pérennes et notamment, bien sûr, de la filière viticole, puisque nous sommes la première région viticole.
Absolument.
De France.
Alors, nous sommes face à un monde agricole qui s'interroge, hein, on le disait dès le début de cette émission, qui s'interroge sur l'environnement. Il y a beaucoup de questions, il y a des vraies questions, des questions qui reviennent souvent.
Oui, je crois qu'il suffit d'écouter les médias tous les matins pour voir qu'il y a des questions auxquelles le monde agricole doit faire face. Bien sûr, produits phytosanitaires avec l'interdiction des néonicotinoïdes, changement climatique qui n'est pas sans conséquences sur les productions agricoles, mais qui interroge aussi la profession agricole en tant qu'activité émettrice, qualité des eaux, le volet évidemment quantitatif. On est dans une région où on est en déficit structurel pour l'eau d'irrigation, donc bien sûr qu'on a des enjeux importants.
Alors quelles sont les réponses que vous pouvez leur apporter ? Est-ce que déjà les agriculteurs vont vous voir spontanément et vous posent ce type de questions ? Voilà, bon, j'ai envie de me convertir au bio par exemple, qu'est-ce que je peux faire ? J'ai envie de changer complètement de culture, de type de culture, comment vous allez pouvoir nous aider ? Vous, qu'est-ce que vous apportez comme réponse ?
Ben justement, c'est que je crois qu'aujourd'hui, les réponses sont multiples et surtout à adapter à chacune des situations et à chaque agriculteur au plus près de sa situation. Si par le passé, pour répondre aux objectifs de la demande alimentaire, nous avons eu à apporter des réponses un peu globales et systémiques à l'échelle de nos filières de production, aujourd'hui, c'est vraiment du cas par cas et l'accompagnement est à adapter à chaque agriculteur. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'on a bien sûr un volet recherche très important. On a besoin de la recherche pour nous aider à trouver des solutions. Par exemple, quand on a des politiques publiques qui interdisent certaines matières actives ou molécules, il nous faut de la recherche pour pouvoir trouver des solutions alternatives. Mais on a aussi besoin d'une innovation un peu ascendante. Voilà, c'est-à-dire aller capter des initiatives mises en place par des agriculteurs sur leur exploitation et qui peuvent trouver là écho auprès d'autres agriculteurs pour que ceux-ci adaptent aussi leur système d'exploitation. Voilà.
C'est-à-dire servir d'exemple.
C'est un petit peu ça, voilà, c'est ça. Aller capter ces expériences, ces pratiques un peu expérimentées à l'échelle très locale, mais qui sont toujours faites dans un objectif d'amélioration des performances de l'exploitation agricole. Et quand on parle des performances, c'est économique, bien sûr, parce que le monde agricole subit des crises économiques. Et donc, ces solutions doivent évidemment répondre à la viabilité économique de l'exploitation, mais aussi améliorent les performances environnementales et sociales.
Alors, qu'est-ce qui émerge aujourd'hui en termes d'innovation, puisqu'on y vient ce qui nous intéresserait aussi de comprendre, c'est comment un agriculteur peut devenir un entrepreneur. Il est déjà un entrepreneur. Comment peut-il se développer? Quelles sont les clés et les outils à sa disposition? Et je reviens à ma première question, puisque c'est une question à tiroir. Première question, comment aujourd'hui, j'allais dire, on peut innover dans l'agriculture? Qu'est-ce qui fonctionne?
Bon, bien sûr, on le voit, on a une demande croissante de nos concitoyens en produits locaux, produits de qualité. Donc, on voit dans notre région tout particulièrement, qui n'est pas évidemment une région adaptée pour des productions de masse, une orientation très forte d'une partie des agriculteurs vers les circuits courts, c'est-à-dire réduire les intermédiaires entre le producteur et le consommateur.
Etc.
Exactement, voilà. Donc ça, bien sûr, pour des productions qui ne nécessitent assez peu de transformation, donc viande, fruits et légumes, ça se développe beaucoup et notamment autour de nos métropoles. C'est d'ailleurs aussi des filières sur lesquelles on enregistre le plus d'installations.
C'est ça, le bio en fait. Ouais.
Les circuits courts, on va dire un petit peu dans leur ensemble. Alors bien sûr, l'agriculture biologique aujourd'hui bénéficie d'attraits. Donc bien sûr, les agriculteurs y répondent. Nous sommes d'ailleurs la première région en termes de surface en agriculture biologique en Occitanie. Donc preuve que les agriculteurs répondent à une demande. C'est aussi pour eux des fois pour des raisons économiques, puisque les aides à la conversion permettent d'accompagner le développement de cette activité.
Voilà. Mais une terre, imaginons une terre uniquement avec des agriculteurs bio, ça peut pas marcher? Ça ne sera pas viable?
Ça posera quelques questions en termes de volume d'alimentation. Aujourd'hui, la ferme Occitanie produit 1,5 fois plus d'énergie et de protéines que sa population. C'est sûr que si on passait tout en bio, on réduirait très significativement ce potentiel nourricier. Voilà. Donc je crois que c'est plus par la complémentarité des modes de production que nous avons à rechercher les voies de développement de notre agriculture plutôt qu'un modèle unique.
C'est-à-dire effectivement des petites exploitations mixées à des exploitations de moyenne et de grande taille qui permettent aussi l'exportation.
Voilà, c'est ça qui répond à des logiques de marché plus longs, voilà, et puis qui répondent et qui quand même si ces exploitations-là soucieuses de l'impact de leurs pratiques sur l'environnement, la qualité de l'eau aussi.
Les agriculteurs aujourd'hui sont confrontés à différents types de problèmes en termes d'organisation. On pourrait parler d'organisation humaine.
Oui, le problème de la main-d'œuvre est réel, avec des problèmes liés évidemment à l'installation. Toutes les filières ne sont pas attractives parce que il y a des réels problèmes économiques. La filière grande culture en est un exemple criant. Donc on assiste du coup à une augmentation de la taille des exploitations. Voilà, et puis après la main-d'œuvre saisonnière aussi est un réel problème.
Alors il y a des campagnes de communication là, qui sont lancées depuis le début de ce mois de septembre pour recruter des personnes qui souhaitent vendanger et on ne trouve pas, et les viticulteurs ne trouvent pas. Comment on explique ça ?
Ben, alors, c'est un peu compliqué à expliquer. Bon,
c'est un petit peu, oui, voilà, mais c'est vrai qu'on.
Mais c'est une réalité
comprendre.
Que de trouver une main-d'œuvre qualifiée, volontaire, pour s'investir aux côtés des agriculteurs sur l'activité de production agricole. Effectivement, on a un problème d'attractivité, peut-être, de nos métiers autour de l'agriculture.
Ça peut remettre en péril une exploitation.
Oui, tout à fait, ou certains types de production qui sont abandonnés, faute de main-d'œuvre suffisante.
Et là, vous auriez des solutions à la Chambre à proposer ?
Bah, les solutions, après, elles sont plus dans les formes d'organisation des agriculteurs. Donc, on peut assister à des regroupements d'exploitation, à des assolements en commun, voilà, pour essayer de pallier à ces problèmes très personnels que peuvent rencontrer des agriculteurs. Bon, après, il y a aussi des services qui se développent. Le service de remplacement peut aider à trouver une main-d'œuvre qualifiée pour remplacer aussi l'agriculteur dans ses missions quotidiennes ou ses missions d'astreinte. Mmh, on peut penser aussi aux productions laitières avec l'astreinte de la traite deux fois par jour, qui aujourd'hui est assez peu compatible avec les vies de famille auxquelles nos jeunes aspirent.
Bien sûr, tout à fait. Puisque la société a changé, et puisque les agriculteurs d'aujourd'hui n'ont plus les mêmes envies, que leurs aïeux. Est-ce que les formations aujourd'hui attirent suffisamment de jeunes dans les lycées agricoles ?
Oui, je crois que nos lycées agricoles sont attractifs, avec aussi des circuits de formation qui tendent vers ces nouvelles aspirations, meilleure prise en compte de l'environnement, nouvelles techniques culturelles. Voilà, donc il y a une certaine attractivité.
Oui, suffisante.
Suffisante après.
Je sens que vous vous interrogez là.
Suffisante après, bon, évidemment, dans les lycées agricoles, les apprenants n'ont pas tous vocation à aller dans la production agricole,
dans la recherche aussi.
La recherche, et puis les organismes de conseil qui entourent les agriculteurs. Il y a bien sûr les chambres d'agriculture, mais on peut citer bien sûr les coopératives et négoces agricoles. Et donc ces structures-là sont aujourd'hui en pleine mutation pour accompagner le monde agricole, et donc ont besoin d'apprenants qui ont un nouveau bagage et évoluent dans leur attitude de conseiller.
Voilà, et puis des agriculteurs qui sont de plus en plus connectés et innovants, on va en parler dans un petit instant, puisque vous lancez jusqu'au mois de novembre une campagne qui s'appelle Innovation, où vous mettez en avant donc toute innovation en fait liée à l'agriculture et tout ce qui tourne autour du mieux, on va dire du mieux travaillé des agriculteurs. Vous restez avec nous, à tout de suite.
Le goût d'entreprendre, Doris Pradal.
Et seconde partie de cette émission, Jean-Marie Ferenbach a pris place dans ce studio. Bonjour Jean-Marie.
Bonjour Doris.
Vous êtes un de nos référents éthiques pour le goût d'entreprendre. Merci d'être avec nous, de nous accompagner. Et avant de vous laisser questionner notre invité, M. Goulard, j'aimerais qu'on dise un petit mot en hommage à Michel Dagra, qui nous a quittés cet été et qui nous a accompagnés pendant de nombreuses émissions, notamment du goût d'entreprendre. Donc on aimerait lui dire un grand, grand, grand merci.
Oui, je crois que l'équipe ne pourra jamais l'oublier.
Donc, Pierre Goulard est en charge de l'agronomie et de l'environnement au sein de la Chambre régionale d'agriculture en Occitanie. Il est avec nous aujourd'hui. Jean-Marie, première question à notre invité.
Alors, en tant qu'acteur de Chambre d'agriculture, j'essaie de comprendre qui sont vos clients, parce qu'en fait, vous offrez des services.
Oui.
Et vos clients directs, ce sont les agriculteurs.
Oui.
Mais derrière, il y a toute une clientèle. Les agriculteurs sont vos premiers clients, mais en réalité, vous êtes fournisseur de services au profit d'une collectivité beaucoup plus large. Mm-hmm. Comment vivez-vous cette position de fournisseur de services, finalement ? Est-ce que la pression de la clientèle éloignée, si vous voulez, est très déterminante pour vous ? Est-ce que ce sont d'abord les problèmes des agriculteurs que vous êtes chargé de traiter ? Comment se situe cette relation avec l'interface, je dirais, de votre énorme clientèle au total, à plusieurs niveaux ?
pour rien vous cacher, c'est pas la meilleure place. voilà, puisque, comme vous le dites, nous sommes évidemment, comme tout un chacun, impliqués dans la société civile, donc entendons les attentes de nos concitoyens, les réalités aussi de terrain. Et après, nous sommes face voilà, à des agriculteurs qui sont conscients des problèmes que peuvent poser leur activité, mais sont aussi conscients des difficultés économiques qu'ils rencontrent. Donc accompagner ces transitions, c'est pas simple, mais c'est effectivement le challenge qu'on essaye de relever, et au travers notamment d'opérations qui visent justement à mettre en avant quelques agriculteurs qui ont réussi par l'innovation, par le test au plus près de leurs exemples et réalités de leur exploitation, trouver des solutions qui répondent à ces attentes.
Parce que ça, c'est un besoin, vous parlez d'innovation, que vous avez clairement identifié.
Ah oui, le besoin d'innover est vital pour les exploitations agricoles d'Occitanie, peut-être plus particulièrement, pour répondre effectivement aux difficultés économiques, mais aussi aux attentes sociétales et aux crises aussi sanitaires, notamment, hein, que peut rencontrer telle ou telle filière.
Tout à l'heure, j'étais très intéressé par ce que vous avez évoqué, à savoir les cas où vous arrivez à valoriser des initiatives du terrain. Est-ce que vous pourriez, pour nos auditeurs, en dire un peu plus? Parce que ça me paraît très riche comme travail et comme méthode d'avoir, je dirais, la base qui contribue et qui peut faire émerger des solutions.
Voilà, donc effectivement, avec le réseau des chambres départementales d'agriculture et nos 700 conseillers de terrain, hein, qui sont en Occitanie à proximité des agriculteurs, on essaye de repérer, voilà, sur les différentes filières de production, des initiatives que mettent en place des agriculteurs. Alors, à titre d'exemple, on peut citer, voilà, des agriculteurs qui adaptent un certain matériel, un semoir, pour répondre aujourd'hui à une meilleure couverture des sols, réussissent à implanter leur culture dans des couverts végétaux vivants. Voilà, ce sont ces des évolutions de techniques culturelles, bien sûr. Après, il peut y avoir des choses plus en lien avec les innovations, la mise en œuvre de techniques alternatives de lutte contre certains ravageurs, notamment insectes foreurs du maïs, avec l'application par des drones, des trichogrammes, qui sont donc des petits hyménoptères qui vont parasiter les larves de la pyrale de maïs. Bon, voilà, des initiatives comme ça, puis le recours à l'innovation technologique peut nous y aider.
Alors justement, puisqu'on parle de ça, c'est en lien avec l'opération que vous lancez à travers une quinzaine de fermes, voilà, en Occitanie. Cette opération s'appelle Innovaction.
Innovaction, voilà, qui vise donc à le rendez-vous des agriculteurs innovants, hein, c'est comme ça qu'on l'a appelé. Et le principe, c'est qu'un agriculteur organise une ferme ouverte.
C'est donc ouvert à tout le monde.
Voilà, et à destination plus particulièrement de ses pairs, hein, donc, puisque l'idée, c'est de témoigner, mais aussi aux autres acteurs du monde rural. Les élus, notamment, peuvent, et autres partenaires du monde agricole, peuvent venir voir et discuter avec ces agriculteurs innovants. Donc, à l'occasion de cette année 2018, c'est la quatrième année consécutive que nous organisons cette opération dans la région. Nous organisons 14 fermes ouvertes là, qui vont se dérouler du mois de septembre au mois de novembre.
D'accord. Donc, on peut se rendre chez les agriculteurs, poser toutes les questions que l'on souhaite.
Oui.
Vraiment toutes les questions?
Ah oui, c'est vraiment le principe d'avoir des portes ouvertes, tout à fait. Et donc là, les agriculteurs jouent carte sur table et témoignent des motivations qui leur ont fait évoluer leur système, et puis après des solutions techniques qu'ils ont pu mettre en œuvre.
Il faut dire qu'ils aiment l'innovation, les agriculteurs en général. Ils sont très connectés, ils seraient d'ailleurs plus connectés que la moyenne nationale en France. Près de 70% ont accès à Internet ou travaillent avec Internet tous les jours pour passer des commandes, pour s'occuper des animaux,
ouais,
du matériel.
Ne serait-ce que pour quelque chose de très basique et essentiel dans le monde agricole, qui est la météo. C'est quelque chose on a besoin de consulter évidemment très, très, très souvent, et d'avoir le plus de fiabilité possible. Alors aujourd'hui, c'est vrai que Internet et les différents services qui existent autour de cela permettent cela. Bon, et puis après, c'est les solutions Internet et puis les réseaux sociaux permettent la diffusion de techniques un petit peu innovantes, avec des forums et du coup des agriculteurs qui communiquent entre eux justement sur les innovations ou les évolutions de pratiques qu'ils ont pu mettre en œuvre.
Jean-Marie, une autre question.
Oui, on a évoqué très rapidement la formation. Tout à l'heure, vous aviez dit que la formation était quelque chose qui était en grande mutation compte tenu de l'évolution de la profession. Actuellement, est-ce que ce sont toujours une majorité de ruraux qui entrent dans la profession, en formation, ou est-ce que c'est très diversifié? Est-ce que des citadins passent vers des formations
Ou des reconversions, pourquoi pas?
Oui, après... Alors, dans le circuit classique de formation, je n'ai pas les chiffres exacts, donc je ne pourrais pas vous les donner, mais effectivement, on a des jeunes qui s'intéressent quand même au monde agricole, que ce soit le milieu de la production ou celui qui l'entoure. Bon, puis après, nous avons aussi, bien sûr, des installations de personnes qui ne sont pas issues du monde agricole, mais qui, soit par... goût d'entreprendre, goût de la nature.
Ça nous plaît, ça, goût d'entreprendre. Je ne sais pas pourquoi, mais on aime bien.
Oui, j'ai cru comprendre. mais aussi, bon, avoir ce sentiment de contribuer à l'alimentation des concitoyens, je crois que c'est aussi quelque chose d'assez noble qui peut attirer.
Est-ce qu'il y a une prise de conscience aujourd'hui du consommateur? Alors, à la fois du travail des agriculteurs, de leurs contraintes, de leurs difficultés, et bien évidemment de ce qu'on a dans l'assiette.
Quand on l'interroge et demandé comme ça, sûrement. Après, quand il est face à son acte d'achat, hélas, je ne suis pas sûr que ça se déroule de la même façon. Voilà, donc c'est un petit peu ce qui est regrettable, hein, puisqu'on voit que, hélas, le budget moyen dédié à l'alimentation diminue. Hein, alors que si on voulait orienter et soutenir nos productions, notamment régionales, que ce soit le bio ou les signes officiels de qualité, il faudrait plutôt que le budget soit en augmentation.
Oui, exactement. D'ailleurs, il y a le PDG de Carrefour qui a déclaré récemment qu'il voulait devenir le leader de la transition alimentaire pour tous, pour relever les grands défis environnementaux du siècle. J'ai envie de vous poser la question, l'agriculteur et la grande distrie, on s'aime ou on ne s'aime pas?
Je crois qu'il faut qu'on travaille ensemble. Carrefour et d'autres chaînes de distribution ont des labels, ont des cahiers des charges qui quand même permettent de rémunérer des efforts que font les agriculteurs et des productions qui répondent à certains cahiers des charges, réduisant l'utilisation de certains intrants et ayant le souci de l'empreinte environnementale ou carbone, par exemple. Donc voilà, je crois qu'il faut... Il ne faut pas opposer les modes de production, et y compris les modes de distribution. Je crois qu'on a besoin d'un panel. Chacun a progressé et c'est ce que nous essayons de faire avec le réseau des conseillers des chambres d'agriculture.
Il faut qu'il y ait une volonté aussi qui soit affichée, une volonté qui soit forte peut-être au niveau de nos instances, de notre gouvernement.
Oui, c'est vrai qu'on avait ce grand chantier de la loi des États généraux de l'alimentation, et avec une loi là qui peine un petit peu à aboutir, puisque on espère qu'à la rentrée ça va être le cas. Mais en tout cas, c'est vrai que c'était un grand chantier au niveau national. Au niveau régional, la région a aussi mis l'alimentation comme grande cause régionale. Donc, on a des signaux plutôt favorables, on va dire, en termes de soutien à notre activité.
Vous êtes positif.
Il le faut. Et puis, je crois qu'au travers notamment aussi de l'opération Innovaction, ce qu'on souhaite faire, c'est redonner un petit peu d'attractivité et de goût d'innover, d'entreprendre aux agriculteurs qui, face aux difficultés, peuvent parfois baisser les bras. C'est leur montrer qu'il y a quand même quelques exemples d'agriculteurs qui réussissent qu'ils peuvent s'en inspirer.
Voilà, tout à fait. Aller de l'avant. Jean-Marie, notre question.
Oui, et si on se situe par rapport à nos voisins, par rapport à l'Europe à côté, est-ce que vous sentez que nous avons une dynamique particulière? Est-ce que vous sentez que les autres ont les mêmes préoccupations que nous? Comment est-ce qu'on se situe dans ce monde d'évolution agricole par rapport à nos voisins?
Vous savez, le monde agricole est quand même... Enfin, où son activité, les pratiques agricoles sont quand même très encadrées par des directives européennes, et notamment par rapport à la réduction de certains polluants, que ce soit les produits phytosanitaires, les nitrates, etc. Après, il y a des applications différentes, on pourrait dire, selon les États membres. Ce qu'on regrette, nous, un peu parfois, c'est qu'on n'arrive pas à démarquer nos produits. C'est-à-dire que si, au niveau national... on va vers un peu plus d'engagement de nos agriculteurs, et qu'on puisse après, au final, que ce soit lisible par le consommateur, en clair, au final.
Ça, expliquer, c'est aussi voilà. Votre rôle.
Oui, c'est ça, expliquer, mais aussi que ce soit lisible sur les étiquettes, etc.
Alors, c'est plus ou moins lisible, plus ou moins.
C'est plus ou moins, voilà, je partage. Donc, du coup, aujourd'hui, à part le bio qui, lui, est clairement lisible, les autres stratégies de réduction d'utilisation des produits phytosanitaires, par exemple, ne le sont pas.
Donc, ce sera peut-être plus clair après cette campagne de communication Ecophyto qui est lancé en ce moment.
Effectivement, mais du coup, comment un consommateur qui est face à son rayon de supermarché ou voilà, peut être acteur de ce plan par son acte d'achat? Pour l'instant, c'est un peu compliqué à trouver sur
c'est
une étiquette.
Oui, tout à fait. Alors, on parle beaucoup des supermarchés, mais ce serait peut-être bien aussi qu'on dise un mot de toutes ces initiatives autour. Je pense par exemple au drive fermier, je pense à tous les marchés de plein vent où on trouve, on a le contact de direct là avec nos producteurs.
Oui, tout à fait. Ben, d'ailleurs, les chambres d'agriculture ont créé des marques dédiées à ça, que ce soit la marque Bienvenue à la ferme, pour identifier des producteurs qui accueillent sur leur exploitation des consommateurs et pour la vente en direct de leur production. Les drives fermiers, c'est également une marque du réseau des chambres d'agriculture qui se développe pour aussi fournir à nos concitoyens des produits issus donc de producteurs fermiers.
Ouais, tout à fait. Ça, c'est vraiment important de le souligner. Et c'est vrai que le consommateur est en demande, est en recherche de ce type de contact.
Oui, voilà, un contact le plus proche possible, et là aussi, donc c'est parfois une solution économique pour des agriculteurs que de s'orienter vers ces voies de commercialisation en direct de leur production.
Absolument. Jean-Marie, le mot de la fin, c'est pour vous.
Bien, écoutez, avec ce que vous avez dit, j'ai l'impression qu'il y a une évolution qui est intense en ce moment, et peut-être que nos auditeurs qui sont des consommateurs vont peut-être un peu plus s'intéresser à toutes les questions de leur alimentation et notamment de se préoccuper de l'origine de ce qu'ils mangent un peu plus.
Voilà.
Ben merci beaucoup, merci à vous. Donc si on pouvait conclure, on pourrait dire que le monde agricole, comme on le disait dès le début de cette émission, est certes chahuté, mais porteur d'espoir.
Et d'innovation.
Merci à vous. Si on souhaite vous joindre, c'est très simple. On peut vous contacter directement si vous décidez d'entreprendre dans l'agriculture. On peut vous joindre directement. Vous avez un contact, un site internet à nous communiquer.
Voilà, sur le site internet de la Chambre régionale d'agriculture, donc occitanie.chambre.fr.
Merci beaucoup, merci Pierre Goulard, merci à vous de nous écouter toujours plus nombreux sur Radio Présence. Si vous souhaitez nous écrire, c'est très simple, entreprendre@radioprésence.com.
Le goût d'entreprendre, une émission en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées.